Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Un matin, il le rencontre. Il est exactement qu'il le revoyait. Il lui dit gentiment « Bonjour ». Nicolas lui répond « Bonjour ». Une fois dehors, Nicolas lui demande « Vous allez du quel côté ?»« Je prends le 18. Je vous accompagne. » Et désormais, tous les jours, Nicolas accompagne Philippe à son car. Tout en marchant, ils se parlent. Philippe lui dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est aller à la mer. Je ne l'ai jamais vue. » Nicolas lui dit « Si tu veux, on peut y aller ensemble. Oui, ce serait bien. » Ce projet de voyage, dit comme ça, devient pour Nicolas quelque chose de précis et un but. Nicolas voit que Philippe a un trou à son pantalon, à son genou droit. Cela l'émeut parce que cela lui dit que Philippe est pauvre et qu'il pourrait l'aider. En descendant les escaliers près de lui, il sent son odeur. Cela l'enivre. Une nuit, il rêve qu'il caresse Philippe. Cela le met en érection. Chaque fois qu'il le voit, il a envie de le toucher. Cette envie le surprend et le trouble. Dans son lit, il y pense sans arrêt. C'est pas possible. Je désire toucher un garçon. Je suis fou. Cela n'existe pas. À moins que je ne sois pas comme les autres. Un jour, il a envie de lui faire plaisir. Il a acheté un paquet de bonbons à la praline. Et le lendemain matin, lorsqu'il le voit dans l'allée, il le lui offre. Merci. Et Philippe lui donne un baiser sur la joue pour le remercier. Cela touche beaucoup Nicolas. Désormais, ils marchent en se prenant la main. Un jour, ils sont assis dans les escaliers de l'allée. Le jeune se blottit contre Nicolas et lui donne un baiser sur la joue. Nicolas le ferme contre lui, le serre contre lui, le caresse. Ses mains vont jusqu'à la taille, mais n'ose pas aller trop loin. Souvent, le jeune fait des câlineries. Il leur arrive de parler de départ ensemble. Nicolas en rêve et aimerait partir pendant les vacances avec Philippe. Un jour, il prend son courage à deux mains et va dans le bureau au bureau de son père. Entré, s'approche de son père qui est assis à son bureau.
Père, j'aimerais c'est vous demander quelque chose.
Je t'écoute.
Voilà, pour les vacances, j'aimerais c'est partir avec un ami.
Benoît est surpris. Et pour aller où?
Je ne sais pas, peut-être en Italie.
Et avec qui?
Nicolas est rouge et dit: avec lui. Le fils de la concierge.
Comment? Il n'en est pas du tout question. Et puis, que ferais-tu avec un gamin?
Nicolas est rouge. De honte, il a peur de dévoiler son penchant contre nature. Impensable. Il dit: c'est pour lui faire plaisir, et puis il n'a jamais vu la mer.
Je comprends. Cela part d'un bon sentiment, mais c'est peu réaliste. Et il est mineur, et toi aussi.
Nicolas lui dit: avec une dispense.
Non, ce n'est pas possible. Et que feriez-vous tout seul, à l'étranger?
Mes pères.
Cela suffit.
Bien, père.
Et il sort du bureau.
Père ne veut pas. Il ne veut pas. Ah, s'il avait de l'argent, s'il en avait, il pourrait sûrement partir. Mais comment en avoir? Il parle de tout ça à Philippe, sur le chemin qui le mène à son car. Philippe lui dit: moi, je sais qu'en jouant à la loterie, on peut gagner de l'argent. Mais tu as raison, oui. Philippe lui dit: j'ai toujours raison. Et ils vont dans un bureau de tabac acheter un billet de loterie. C'est Philippe qui l'a choisi. Le lendemain du tirage, ils ont acheté le progrès pour voir le numéro. Voyez les numéros gagnants. Ils ont gagné une bonne somme. De quoi vivre 6 mois. 6 mois.
Nicolas lui dit: nous allons le dire à ma mère.
Et après, la tienne. Viens.
Et ils vont tous deux au salon retrouver la mère de Nicolas.
Entrez.
Elisabeth est assise au salon à lire. Il s'approche d'elle. Nicolas lui dit: Mère, j'ai à vous parler. Elle le regarde et lui dit:
Qu'est-ce, ce jeune garçon?
C'est le fils de la concierge, mère, Philippe. Et nous avons acheté un billet de loterie et nous avons gagné. Regarde.
Il lui montre le billet et le journal. Elle regarde.
Félicitations. Félicitations. C'est très bien. Et qu'allez-vous faire de cet argent?
Nicolas lui dit: Nous aimerions faire un voyage en Italie.
Comme c'est bien, l'Italie si jolie, et puis vous apprendrez des tas de choses.
Vous êtes d'accord?
Oui, pourquoi pas? Tu as eu de très bonnes notes cette année, et puis les vacances, un dépaysement, ce n'est pas mal. Ça t'apprendra à te débrouiller. Il va falloir bien sûr donner une dispense. Et pour le jeune garçon, sa mère le sait?
Non, mère, pas encore.
Il va falloir le lui dire.
Et père, mère?
Quoi, père?
Il ne veut pas.
Ton père est stupide. Je le convaincrai.
Pris le train pour l'Italie, avec chacun un sac à dos. Ils sont heureux, le voyage se passe bien.
Décidé de partir à Venise parce que cette ville, ils en ont entendu parler. Ils décident de camper près de Venise pour dépenser le moins d'argent possible. Ils ont acheté une petite toile de tente pour deux personnes. Leur séjour se passe bien. Ils visitent la ville, les environs, vont à la plage. Philippe se laisse guider par Nicolas. Nicolas s'occupe de lui, comme s'il était un enfant. Et c'est sa seule façon d'extérioriser son amour, pour ne pas l'effaroucher. Bien sûr, il y a des caresses, et la nuit, ils dorment enlacés. Nicolas et Duc Philippe lui apprend les arts, l'Italie, apprend à se tenir à table, etc. Ces jours sont les jours les plus beaux de leur vie, de la vie de Nicolas. Il s'en souviendra toujours, toujours. Le temps passe, les vacances se finissent, il faut retrouver la vie. Le retour en train se fait tristement, mais ils ont promis de ne jamais se séparer, et puis ils habitent le même immeuble. Il retrouve Lyon, son ciel gris, les feuilles qui tombent, la préparation des études et l'usine pour Philippe.
Alors en plomberie, ça servirait également pour dégoujoler, pour changer une boîte de vitesse, pour fonctionner pour quelque soit l'utilisation que vous avez,
Leurs parents les ont bien accueillis et la vie reprend comme avant leur départ. Mais en plus, ils ont un souvenir en commun. Nicolas ne supporte plus de vivre chez ses parents. Il a l'impression d'être prisonnier. Un matin, sur le chemin qui le mène jusqu'au cours, il dit à Philippe, ça te dirait de vivre avec moi ? Philippe est surpris et dit, et nos parents ? Nous leur demanderons et l'argent. Je demanderai une pension à mon père. Alors, c'est oui. Je vous vois déjà, rien que nous deux. Philippe, pour lui faire plaisir, lui répond, oui, Nicolas est très heureux. Il va en parler à son père.
Vous aurez toujours à votre disposition pour un modeste billet de 100 francs, 1250 francs.
Et le soir même, il va au bureau de son père.
Entrez. Son père est assis à son bureau. Il s'approche de lui.
Qu'est-ce que tu veux ?
Voilà, père, j'aimerais vivre seul.
Ah, et pourquoi ?
Parce que je suis suffisamment grand et que je me trouve bête à la maison.
Eh bien, vis seul.
Merci, père, mais... Et ma pension?
Tu dis que tu veux vivre seul. Tu te débrouilleras.
C'est-à-dire que j'ai mes études.
Et comment font les autres?
Je ne sais pas, mais j'avais pensé, c'est que tu m'aidais, en tout cas que tu m'aurais aidé le temps que je termine mes études. De toute façon, si je restais à la maison, tu me donnerais une pension. Financièrement parlant, c'est pareil.
Mais si l'on décide de vivre sa vie, on le fait vraiment.
Le père se dit que s'il ne lui donne pas de pension, il risque, cet imbécile, c'est de rater ses études parce qu'il va faire des petits boulots.
Bon, eh bien d'accord, mais tu continues tes études et dès que tu as fini ou que tu t'arrêtes, je termine la pension. Je supprime ta pension.
Merci, père.
Oui, livre.
Il y a à louer un petit F1 rue de Brest. Il n'est pas trop cher. Ensuite, il a prévenu sa mère, qui a été surprise, mais n'a rien dit. Une semaine plus tard, avec son père, il est allé louer le petit F1 rue de Brest. C'est dans un vieil immeuble de 3 étages. Sans style, gris, allée étroite et sombre. Le petit appartement au toit dernier étage. Petit couloir qui donne à la pièce principale qui est meublée moitié cuisine, moitié séjour avec des meubles de récupération. Tapisserie défraîchie à flore, lino sur le sol. Il y a dans le séjour une porte qui donne à la chambre. Une petite pièce avec un lit à 2 places qui prend presque toute la place et une énorme armoire à 2 portes. Dans la chambre, il y a une porte qui donne à la salle d'eau, douche, WC. Le tout fait pauvre, bien entendu. Le père payera le loyer. 2 jours plus tard, Nicolas va demander à la mère de Philippe, qui est la concierge de l'immeuble, de ses parents, la permission de prendre Philippe avec lui. Va le recevoir dans son séjour.
Elle le fait asseoir à table.
La pièce est meublée sur la manger 1930. C'est une petite grosse femme, cheveux gris, frisés. Elle porte une blouse noire à pois blancs.
Vous voulez un café? Je viens d'en préparer.
Nicolas se dit qu'il vaut mieux accepter. Cela montrera qu'il ne la prend pas comme une subalterne.
Oui, merci.
Elle sourit et se dit qu'il n'est pas fier. D'ailleurs, il l'a montré en allant avec son fils en Italie. Elle va chercher à la cuisine le café.
Et on revient.
Lait, sucre.
Pas de sucre. Merci, un peu de lait.
Thank you. alors, je vous écoute.
Elle le trouve joli garçon.
Voilà, madame. Je vais vivre seule et j'aimerais c'est que votre fils Philippe vive avec moi. Vienne vivre avec moi.
La dame est surprise.
Pourquoi ? C'est-à-dire que pour les vacances, c'était pas la même chose, mon ami. Et puis, cela risque de faire jaser, vous comprenez.
Personne ne le saura. Nous habiterons dans un autre quartier.
Et puis, il y a l'argent. Je ne peux pas lui faire une pension, vous comprenez.
Aucune importance. C'est moi qui paierai tout.
Bon, bien, puisque c'est comme ça. Mais Philippe est d'accord?
Oui, bien sûr.
Bon, eh bien, je ne dis pas non. Mais attention, il est mineur. Je veux être au courant de tout, hein. Faites très attention.
Le soir, lorsque son fils rentre du lycée, elle lui dit la visite de Nicolas.
Tu aurais pu m'en parler avant. Je lui ai dit oui, parce que ça m'arrange financièrement. Mais au moindre ennui, c'est tout de même bizarre qu'il tienne tellement à toi. Il ne serait pas un peu pédé? J'apprends que vous faites des saletés ensemble, des saloperies. Tu auras affaire à moi.
Une semaine plus tard, les deux garçons emménagent. Philippe est tout heureux et trouve l'appartement très bien. Connaissent déjà la vie en commun parce qu'ils l'ont déjà faite. Nicolas n'a pas dévoilé ses désirs à Philippe et se dit qu'il l'apprivoisera petit à petit. Le plus simple, c'est la journée entre le travail et les choses domestiques. L'on peut cacher ses désirs. Mais la nuit, lorsque l'on est dans le même lit. Philippe n'a rien dit qu'il couchait dans le même lit. Cela lui paraît normal. Comme il fait encore chaud, il couche en slip. Nicolas n'arrive pas à dormir. Et sentir son ami près de lui, cela le trouble. Lorsque Philippe dort,
pas son temps à le regarder. Des fois, il voit que Philippe bande. Cela le gêne.
Les jours passent. Nicolas traite Philippe comme un enfant. Il l'aide à s'habiller, le sert à table et tout. Il fait même cela dans la rue. Il ne se rend pas compte que les gestes qu'il a pour Philippe sont trop vifs. Et sa voix, lorsqu'il lui parle, devient excitée, aiguë. En réalité, il est tellement heureux d'être avec lui que cela l'excite et le rend féminin. Il fait un peu pédé, cela se voit. Lui ne s'en rend pas compte, mais les gens qui le croisent dans la rue le voient, l'ont ressuscap et parlent. Et puis, un jour, Nicolas s'aperçoit que dans la rue, Philippe regarde des filles. Cela lui fait du mal. Lorsqu'il regarde la télévision et qu'il y a une scène érotique avec une femme, Nicolas s'aperçoit que Philippe bande. Il se dit, ne me désire pas, ne me désire jamais. Je ne suis même. Que dois-je faire? Cette vie à deux, pour lui devient un cauchemar. Il est triste, un cafard, a envie de pleurer. Il n'ose pas parler. Philippe se demande ce qu'il a. Il ne répond pas. Et puis Nicolas s'aperçoit que l'on jauge sur leur passage, que les gens de l'immeuble le regardent d'une drôle de façon. Nicolas se sent mal à l'aise. Il aime vraiment Philippe. Et lui veut tout le bien du monde. Il a honte d'être près de lui. Il se sent coupable de lui faire mener une vie, cette vie. Je lui gâche sa vie. À cause de moi, il a une mauvaise réputation. Il aimerait le faire partir. Ce serait mieux pour lui. Mais cela lui fait du mal, un mal terrible, de savoir qu'il va s'en aller. Je ne supporterai pas qu'il me quitte. Mon Dieu, que faire? Que faire? Que faire, mon Dieu? Les jours passent. Nicolas est de plus en plus triste. Je veux son bonheur. Je dois me sacrifier pour qu'il puisse vivre sa vie. Avant d'agir, il tente une dernière fois. Dans le lit, Philippe lui tourne le dos. Il a le dos nu. Doucement, tout doucement, Nicolas tend la main et, tout doucement, il lui caresse le dos. D'un coup d'épaule, Philippe se dégage et lui dit « J'aime pas qu'on me caresse. » Nicolas a compris. Il se recroqueville dans un coin et pleure. Une fois tous les 15 jours, la mère de Nicolas va le voir pour voir si tout va bien. «
un jour qu'ils sont seuls, elle lui dit
« Je trouve triste, maigri. »
« Ce n'est rien. C'est la préparation des examens. »
Une nuit, Nicolas se lève. Il va à la salle d'eau.
Ouvre l'armoire à pharmacie. Un truc de comprimé. Je sers un verre d'eau du robinet. Mets les comprimés dans sa main et avale une gorgée d'eau. Puis, retourne se coucher. Le lendemain matin, Philippe se réveille. Il voit Nicolas qui dort.
Il se lève. Va à la salle d'eau.
Petit déjeuner.
Et s'en va.
Dans la matinée, l'on n'entend pas de bruit dans l'appartement. Nicolas reste allongé sur le lit sans bouger. Puis, vers la fin de la matinée, l'on sonne à la porte. Plusieurs fois. Silence. L'on sonne encore une fois. Puis, des clés dans la serrure. Des pas. On appelle Nicolas. Nicolas. On le secoue,
on court, porte claque,
puis on le porte, lumière du jour. Odeur de voiture. Et puis, le noir. Une odeur inhabituelle. Petit à petit, il se réveille, du blanc, des draps, ou comme une pièce claire. Il est dans un lit, engourdi, la langue pâteuse, la tête vide. Il sent aux extrémités de ses membres quelque chose d'étrange, comme lorsque le sang ne circule plus. Et puis, il ne sait plus. Il ne veut plus chercher. Sa torpeur lui suffit. Il tourne légèrement la tête et voit, assis sur une chaise près du lit, sa mère en tailleur bleu. Elle ne voit pas qu'il est réveillé parce qu'elle tourne la tête du côté de la fenêtre. Lui n'a pas envie de lui parler. Il le regarde et c'est tout. Tout à coup, elle se tourne vers lui et le voit.
« Tu es réveillé? Mon Dieu, que tu nous as fait peur! Pourquoi as-tu fait cette chose? Tu es resté 3 jours sans connaissance. Qu'est-ce qui t'a pris de nous faire une telle frayeur? Peux-tu me dire pourquoi tu as fait ça ?»
Il ne répond pas. Elle soupire et lui dit
« Tu as bien une tête de mule. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Et quel scandale! La police est venue nous poser des questions, comme si nous étions responsables. Il y a même une assistante sociale, comme pour les enfants martyrs. J'avais honte, honte, à cause des voisins. Si tu savais. Ah, maintenant, tu vas me dire pourquoi tu as fait ça. Tu ne dis rien. On trouverait bien les moyens de te faire parler. »
La porte s'est ouverte. C'est un homme de 50 ans, cheveux blancs, taille moyenne, costume gris, blouse blanche. Il s'approche. La mère lui dit : «
Il s'est réveillé, mais ne veut rien dire. Une vraie tête de cochon. »
Le docteur lui dit : « Il ne peut pas vous répondre, il est encore sous le choc. Il faut le laisser se reposer. Sortez, madame, s'il vous plaît. Je vais l'examiner. »
Et la mère se retire.
Une semaine plus tard, Nicolas sort de l'hôpital. On le mène dans une maison de repos sans qu'on lui demande son avis. La maison se trouve au-dessus de Grenoble. Il est dans une chambre individuelle. Il peut sortir dans un parc. Physiquement, il reprend des forces, mais reste muet et ne veut pas parler de ce qui lui est arrivé. Il a vu son père qui a été gêné. Ils n'ont su quoi se dire. Lui n'a rien dit. Sa mère est toujours furieuse contre lui. «
La mère est toujours furieuse contre lui.
Nous faire ça, tu ne nous aimes pas.
Il lui apprend aussi que Philippe est parti chez sa mère.
Tu veux lui parler ?
Il fait non de la tête.
Le médecin va le voir tous les après-midi, à l'heure de la sieste.
Entrez.
Il s'assoit à côté du lit.
Et lui demande,
« Vous voulez toujours pas parler ?»
Nicolas, énervé, lui dit, « Je n'ai rien à vous dire. J'ai voulu mourir, ça n'a pas marché. Voilà, c'est fini. Laissez-moi tranquille. La vie continue puisque je ne suis pas mort. »
Un jour, sa sœur vient le voir. Ils font le tour du parc. Comme tous les parcs de ces maisons, c'est un grand parc entouré d'un grand mur qui couvre les bruits de la vie.
Nicolas lui dit, j'en ai assez d'être là. Je veux sortir d'ici.
Elle lui dit, j'en parlerai à père.
Mais que veux-tu faire une fois sorti?
Je ne sais pas. Peut-être arrêterai-je mes études. Je vais voir.
Discuter avec les médecins, le père le fait sortir. Il retourne dans l'appartement de ses parents, retrouve sa chambre.
Sa soeur lui demande, tu veux revoir Philippe?
Non, il vaut mieux pas.
Elle lui dit, il part en Suisse la semaine prochaine. Il lui dit, c'est une bonne chose pour lui.
Pour Nicolas, Philippe, c'est du passé. Il ne veut plus revenir en arrière. Il ne reprend pas encore ses études. On le laisse se reposer. Alors dans sa chambre, il lit beaucoup de romans. Un après-midi, en terminant un roman, l'idée lui vient. Il décide d'arrêter ses études.
Il va le dire à son père dans son bureau.
Père, j'ai réfléchi à mon avenir.
C'est bien, je t'écoute.
J'ai décidé, c'est d'arrêter mes études.
Le père soupire, furieux.
Et pourquoi?
Parce que la science n'apporte pas toute la vérité. L'art mène aussi à une vérité.
Et d'où te vient cette idée?
En lisant, je me suis rendu compte en lisant les romans, que j'apprenais autant de choses sur les êtres, et même plus qu'avec la science.
Mais ils ne t'en prendront jamais à faire une opération, par exemple. Une opération d'appendicite.
Oui, mais cette science-là ne m'intéresse pas. Le père agacé lui demande.
Bon, et qu'as-tu décidé de faire? Parce qu'il faut un métier pour vivre.
Je vais être écrivain.
Le père aux yeux épaules.
Écrivain? Écrivain, tu es complètement fou, ce n'est pas un métier. On gagne pas sa vie en écrivant.
Je serai tout de même.
Je crois que tu n'es pas tout à fait guéri, mon petit. Il faudrait c'est que tu fasses une petite thérapie.
Non, père. Ma guérison, je la ferai moi-même.
En écrivant?
Oui.
Et comment tu vivras?
Nicolas ne dit rien. Le père lui dit.
À nos crochets.
Mais je vous rembourserai. Je vous le promets. Dès que je pourrai.
On pourra attendre longtemps.
Nicolas est dans sa chambre, assis à son bureau. Il veut écrire, cherche un sujet d'écriture et décide d'écrire ce qui lui est arrivé. Il y arrive avec difficulté, car ce n'est pas facile à revivre ce qu'il a vécu et son âme ne veut pas. Alors il décide c'est de sublimer ce qui lui est arrivé. Là, j'y arrive mieux. Passe ses journées à écrire. À une soirée que sa mère lui a obligé d'assister pour prouver à tous qu'il est guéri, une jeune femme grande, mince, cheveux châtains, d'un 26 ans, ne cesse de le regarder. Il va vers elle et lui demande « Pourquoi me regardez-vous?
Est-ce que vous plaisez ?»
Et alors ?
Nous pourrions faire mieux connaissance dans un endroit plus tranquille, non ?
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP.